pass Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a disconsolate Lenny Wilkins leads the floor. And for the second time today, the visiting team have won the deciding game in an opening round series. Right now, let's go right over to JB.
Salut à tous, vous écoutez Money Time, l'émission estampillée basket et culture NBA sur Radio Graphite, sur Compiègne, 94.9, www.graphite.net. Money Time, l'émission qui détache vos vêtements jusqu'en profondeur pour leur redonner éclat et couleur. En ce premier jour de printemps, nous avons concocté une émission aux petits oignons autour d'une équipe de consultants en plein épanouissement comme la nature, hein, et sélectionnée à l'issue d'un processus drastique qu'on appelle la sélection naturelle. Ils ont travaillé toute la nuit pour ravir vos oreilles de leur voix suave et mélodieuse. Avant de vous les présenter, je vous présente le programme de cette émission. La chronique habituelle de Basket et Wham ou l'histoire d'un basketteur lambda des années 90 à aujourd'hui. Aujourd'hui, 2006, c'est la peur du vide. La rubrique Un joueur, une époque, où on évoquera avec Mathéo la carrière du plus grand joueur d'Atlanta de tous les temps. Du moins, tant que Trae Young n'a pas terminé sa carrière. Dominic Wilkins. Un jeu qu'on a baptisé sobrement Tu préfères Bip ou bien Bip. Des propositions inattendues pour nos consultants et des réponses non moins déroutantes, voire déconcertantes, auxquelles vous pourrez également répondre chez vous autour d'un verre de brandy ou de lait si vous avez moins de 18 ans. Et pour clore notre émission en apothéose, le désormais traditionnel buzzer beater sur la thématique du jour, ces attaques qui font gagner des matchs, ces défenses qui font gagner des titres. Et si le temps le permet, on aura peut-être l'occasion d'évoquer le match qui retenait l'attention la nuit dernière, le sympatoche Minnesota-Denver. Allez, c'est parti, on accueille nos invités. Il est à la finesse ce qu'est Vladimir Poutine à la démocratie, un véritable vaccin. Voici Mehdi.
Bonsoir.
Salut Mehdi.
Ça va ?
L'homme qui, bien que son métier lui demande une certaine rigueur, présente une fâcheuse tendance quand il tient le score d'un match à retirer 2 points à ses adversaires quand son équipe en marque 2. Bienvenue Kevin.
Bonsoir.
Il affiche en carrière le même pourcentage de réussite pour ses doubles pas que Shaquille O'Neal avec son tir à 3 points. Mais il s'entête à shooter à l'échauffement. Merci d'être là, Manu.
Bonsoir.
Bonsoir. Et il a 13 ans. Et si sa moyenne générale au collège intégrait une matière culture NBA, il aurait déjà son bac en poche. Bienvenue, Mathéo.
Salut.
Alors, que du beau monde, effectivement. Autour de nous, autour de cette table, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet avec notre première rubrique. It's a 2-point lead for the Warriors. Heat need a 3 to win. 10 seconds left. Wade against Iguodala. 5 seconds left. Waiters back to Dwayne. Shoots. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Back it in. It counts. It counts. The Heat win the game. Dwayne Wade won it for Miami. Dans le dernier épisode du Basket et Wham, vous avez exploré les contradictions d'un être humain qui rêvait de dunker sur la Terre entière, alors que les lois de la gravité lui avaient imposé un attachement viscéral au plancher. Aujourd'hui, on explore une nouvelle zone d'ombre du cerveau, et cette aspiration immodérée qu'ont parfois les supporters à voir leur équipe favorite vaincre, en se plongeant en 2006 au sommet de l'Everest à contempler le vide. Alors, pour ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps,
Ils savent que je suis devenu fan du Miami Heat il y a environ 30 ans. À l'époque, l'équipe existait depuis peu, en 88, elle avait été fondée, hein, et était bien loin de faire partie des cadors de la NBA. Des joueurs phares, les joueurs phares de l'époque étaient alors Glenn Rice, shooter racé et spectaculaire, Steve Smith, combo guard annoncé comme le nouveau Magic Johnson, mais qui, malgré une carrière plus qu'honorable, n'atteindrait jamais les sphères du légendaire numéro 33 des Lakers. Ronnie Sekali, pivot d'origine libanaise, véritablement un rebond. Ou encore Grant Long, ailier fort, sorte de Horace Grant du pauvre. Qu'on supporte une franchise NBA, un club de foot ou une équipe nationale, le Graal, le Nirvana, c'est logiquement de remporter un titre. Championnat, Ligue des Champions, Coupe du Monde. Rêve inaccessible pour bon nombre d'équipes malgré les moyens parfois énormes mis en œuvre. Spéciale dédicace aux copains supporters du PSG. Pour avoir ce privilège en NBA, il a fallu que j'attende 2006 avec le Heat, porté par un Dwayne Wade en lévitation durant les playoffs et les dernières performances notables de Shaquille O'Neal qui sortait d'un divorce houleux avec Kobe Bryant aux Lakers. Cette année-là, le Heat sortit successivement les Chicago Bulls de Derrick Rose ainsi que les Pistons de Détroit en des temps où cette équipe était une équipe de basket, crainte et respectée, pour finalement accéder à ses premières finales NBA. Je reviendrai un jour sur cet épilogue de légende où le Heat, mené 2-0 par les Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki, est proche de perdre la troisième manche, synonyme de condamnation à la défaite, aucune équipe n'ayant réussi à revenir d'un 3-0, s'accrocha aux épaules de Wade, devenu subitement Sangoku, pour retourner la situation et enchaîner 4 victoires consécutives, synonyme de trophée Larry O'Brien. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette aspiration irrationnelle qu'ont tous les supporters à voir la victoire finale de leur équipe comme une consécration et à mettre fin à leur tourment existentiel. En cette fin de printemps 2006, votre humble serviteur vit alors avec une pression quotidienne énorme. Condamné à regarder les matchs en différé le matin très tôt, en coupant tout contact avec l'extérieur pour ne pas se faire spoiler le résultat de chaque confrontation. En 2006, je n'étais pas encore père. J'entamais une relation délicieuse avec une jeune femme qui, 2 ans plus tard, deviendrait mon épouse. Et dans l'indulgence que consent un amour naissant, ma chère et tendre ne voyait pas d'objection à ce que je m'investisse autant dans un sport que je ne pratiquais plus et dont je ne tirais plaisir que par simple procuration. J'avais confisqué pour 15 jours le décodeur Canal+ de mes parents et alors que le magnétoscope vivait ses dernières heures, j'effaçais méthodiquement les VHS de la série documentaire « Des trains pas comme les autres » enregistrés par mon père, qui n'en avait de toute façon jamais visionné aucune, pour y imprimer l'espace d'une nuit le match dont je me délecterai le midi suivant en rentrant de l'école où j'enseignais. Je ne sais pas quel réflexe inconscient m'a poussé à commander à l'époque chaque match des finales de conférence et des finales NBA en DVD, par correspondance, à une entreprise désormais disparue, Pontel. Ça vous parle pas, les gars ?
Non.
Que les plus vieux ici connaissent peut-être, mais non, visiblement. Intimement persuadé que l'histoire était en marche, et que j'allais enfin assister au sacre de mes protégés. J'ai même conservé les journaux d'alors, l'équipe et l'édition du Miami Herald, procuré je ne sais comment, qui consignèrent l'exploit de la plus jeune des franchises à accéder au titre de champion. Mais si je vous dépeins ces événements glorieux censés marquer à jamais ma vie, chers auditeurs, il convient de replacer ce qui devait constituer donc l'apothéose de mon existence avec un autre contexte sportif qui focaliserait également mon attention en ce début d'été 2006, décidément spécial. Les premiers auditeurs de Money Time connaissent mes racines italiennes profondément ancrées et constituantes de ma personnalité affable, excessive et de mauvaise foi. Comme tout enfant élevé dans le giron d'une centaine de proches pour lesquels l'Italie représentait un monde parfait, pardonnant tout à des Toto Cutugno, des Eros Ramazzotti, des Umberto Tozzi, voire même des Claude Barzotti ou pire, des Frédéric François, j'étais également un tifoso intraitable de la Juventus et de la Squadra Azzurra. Je vois qu'il y en a qui font des grimaces dans le studio. Je dépasse ici le cadre du basket pour y inclure dans la liste de mes vices d'alors, le foot, avant que l'Italie ne devienne source d'angoisse aux approches des qualifications pour la Coupe du Monde, comme c'est le cas depuis bientôt 10 ans. En 1990, je fus traumatisé par la défaite de l'Italie de Toto Schillaci en demi-finale contre l'Argentine, de ce traître de Maradona. Vous n'étiez pas né encore, hein, 90 ?
90, non.
4 ans plus tard, je pleurais avec mon cousin Gabriel, chez mon oncle Rocco, suite au pénalty raté de Roberto Baggio. Encore un. Non, c'était pas Roberto Baggio d'ailleurs, je crois que je vous dis une bêtise. Devant le sacre des Brésiliens, le destin abandonnant les Rital à un tir au but du bonheur. Je parlerai pas du pénalty raté justement par Roberto Baggio qui ouvrait la route à Zidane et aux Bleus en 98, hein, mes copains m'ayant à maintes reprises remémoré cet échec cuisant et le but de Trezeguet, encore un mauvais coup argentin à l'Euro 2000. Mais en 2006, après 16 ans d'attente et un mondial coréen bizarre, durant lequel une équipe nationale se lançait dans une lutte sociale improbable en refusant de descendre de son bus, après 24 ans d'attente, l'Italie prenait enfin sa revanche sur la France. Désolé les patriotes. Suite à un mémorable coup de boule de Zizou sur Materazzi, que n'aurait certes pas renié Draymond Green, mon cœur de supporter comblé, italo-floridien, était censé exploser de joie puisqu'en 2 mois j'avais tout gagné, titre de champion NBA et Coupe du Monde de football. Malheureusement, en réalité, il n'en fut rien. Passé l'émotion du match remporté, présumé me faire atteindre l'orgasme, j'ai découvert que la victoire au sport, pour un type comme moi, c'était surtout une amère prise de conscience de sa vacuité et de sa vanité. Je vous invite à consulter un bon dictionnaire pour apprécier la différence entre ces deux notions. Je pris conscience que rien ne changerait fondamentalement, ni dans mon existence, ni dans ma perception du monde, encore moins dans mon entourage. C'était effrayant comme sensation. En fait, je crois, et cela m'attriste profondément de le confesser, que ce qui m'excite, c'est l'effort, la difficulté, le dépassement, la souffrance. En cela, je suis un sadomasochiste du sport. Pour le reste, la joie, la jouissance, la félicité, je déplore d'être fondamentalement un peine à jouir. Wade, Udonis, Jimmy et autres Del Piero, Totti ou Maldini, pardonnez-moi, mais finalement, si demain mes copains et moi-même affrontons Pourpoint et que j'inscrive le panier de la victoire du bout du terrain, ou si Laurent et moi réussissons à vaincre Thierry et Manu au padel, qui célébrera notre victoire? Qui en tirera une quelconque satisfaction durable? Toi, Kevin? Merci. Ça me touche beaucoup, j'ai envie de pleurer. Au final, donc, l'année 2006 restera dans mon parcours d'être humain médiocre cette année où j'ai contemplé le vide du sommet de la montagne. Youpi.
Marty, tu as pu venir.
Oui.
Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière.
Oh bah, on dirait une DeLorean, non? Qu'est-ce que vous lui avez fait?
Toutes les questions recevront une réponse. Filme, d'accord. Et on commence.
Oh, Doc, vous vous êtes déguisé en cosmonaute?
C'est pas le moment, c'est pas le moment, on n'a pas le temps. Allez.
This ball picked up by Rollins. Looks like the Hawks want to run. They find Wilkins. Look out.
Dominic Wilkins. He almost ripped the glass apart on that one.
Dominique Wilkins, the human highlight.
Vous écoutez Money Time sur Radio Graphite Compiègne, 94.9, www.graphite.net, une émission recyclable en podcast sur le site. Et vous l'avez compris, on va visiter un petit peu le passé avec notre machine à remonter le temps. Et un joueur aujourd'hui qui nous intéresse, Dominique Wilkins, celui qui fut surnommé en son temps The Human Highlight Film, qu'on pourrait traduire... Vas-y, je te laisse.
L'humain highlight.
L'humain highlight vivant.
L'humain doué.
Ouais, comme quoi il y a des trucs qui se traduisent pas super bien en français. Hein. Mais bon, c'était un attaquant spectaculaire et l'un des seuls à pouvoir tenir la dragée haute à l'époque à MJ, Bird ou Malone. Aujourd'hui, donc, on évoque l'un des grands oubliés de la Dream Team et une carrière remarquable, bien que sans bague de champion. Matteo, tu nous présentes un petit peu le spécimen?
Dominique Wilkins, il est né à Paris, où son père travaillait pour l'armée américaine. Il grandit dans les quartiers durs du Baltimore et se fait vite repérer pour ses qualités athlétiques.
Alors Baltimore, faut le dire au passage, c'était la ville...
Ça craint.
Ouais, voilà. Alors je sais pas si ça craint toujours à l'heure actuelle, mais...
Ça craignait, mais ouais. Je pense que ça va pas...
Pendant longtemps, elle a été la ville la plus dangereuse des États-Unis. Alors effectivement, il était fils de militaire. On aurait pu croire qu'il avait justement certaines entre guillemets un filet pour lui éviter de tomber dans de mauvaises fréquentations. Mais visiblement non, il s'est vraiment frotté très très vite à ce qu'il y avait de pire dans le quartier. Voilà, donc
c'est à l'université que Wilkins confirme les rumeurs qui tournent autour de lui. Il cartonne dès son premier match et marque 31 points dès son troisième. Il est drafté en 1982 par Utah, mais refuse de signer le contrat et décide de partir pour Atlanta.
Ça, c'est fou, ça. Quand même.
Alors, à l'époque, ouais, c'est fou. Mais en fait, déjà, il attire toute notre sympathie, parce qu'un mec qui refuse de jouer à Utah, a priori, c'est un mec intelligent.
Bah pour aller jouer aux Hawks.
Atlanta.
Je sais pas.
Ouais, mais Lou Williams te dira qu'il y a plus de strip clubs à Atlanta qu'à Salt Lake City. Ouais.
Donc,
Effectivement, c'est vrai que ça se voyait pas trop souvent. Aujourd'hui, c'est devenu un peu courant de voir des mecs qui veulent pas rejoindre une équipe. Mais quand t'es drafté, normalement, tu fais pas la fine bouche. Et je crois qu'aujourd'hui, ça serait pas possible. Il a fait pression en fait pour être transféré dans la foulée. Et comme il a martelé tout l'été qu'il voulait pas jouer à Utah, les dirigeants d'Utah l'ont tradé.
Ouais. Et du coup, pour sa première année en NBA, il commence assez fort avec 17,2 points de moyenne et presque 6 rebonds.
Ok. Est-ce que vous avez une idée du numéro 1 de la draft de 82? Parce que Wilkins est drafté, je crois, en 5e position.
82.
Alors, le numéro 1 de la draft, les deux premiers choix de draft, si je ne dis pas de bêtises, il y en a un qui est assez connu. Allez, je joue aux devinettes, qui a joué aux Lakers et qui fait partie de la grande équipe des Lakers au Showtime. Il avait des lunettes. Comme toi, Amélie.
Tu vas dire une connerie. Cherche pas, tu vas dire une connerie.
Non. James Worthy, ça vous parle pas? Non. James Worthy, donc, était attendu et qui a finalement été numéro 1. Et deuxième, c'était Terry Cummings qui est parti à San Antonio. Voilà, c'était pour la petite histoire.
Et donc, Wilkins est sans aucun doute connu pour être un excellent dunker, comme ses duels au dunk contest face au légendaire Michael Jordan. C'est d'ailleurs très tôt, en 1985, que The Human Highlight Film remporte son premier concours de dunk, qu'il remportera aussi en 1990.
Entre deux, il y a quatre participations, on en parlait.
Quatre, ouais. Cinq.
Cinq participations. Oh, d'accord, Kevin, il est
cinq. Okay. Deux finales, deux victoires et un où il passe pas le...
Le premier tour,
pas le premier tour.
Ah, c'était contre moi, il me semble.
Peut-être.
C'était ça, ouais. Éliminé. Là. Ouais, et alors, il y a ces duels, on retient facilement ces duels d'anthologie, mais il y a une anecdote rigolote sur un des concours de dunk qu'il a. La deuxième fois où il l'a perdu, enfin la première fois où il l'a perdu, c'était contre un de ses coéquipiers.
Spud Webb.
Ouais, Spud Webb. Du haut de son 1m70,
ouais, c'est fou.
Qui lui avait donc le trophée est resté à Atlanta, mais c'est Spud Webb qui lui a pris. Hein. Ouais. Donc et après, effectivement, on a tous vu ces images légendaires du concours de dunk contre Jordan, les deux concours de dunk. Il en gagne un, il en perd un. Mais c'était alors, tu peux nous parler un peu du style de dunk, parce que en fait, Dominic Wilkins, ça reste un des plus grands dunkers de l'histoire en match.
Ouais.
C'est pas qu'un vainqueur de slam dunk contest en match, il en mettait un paquet. Et c'était quel genre de...
C'était des dunks puissants où il mettait de la force dans l'arceau.
Ouais.
Mais
très spectaculaire. Alors avec
il excellait pas seulement en freestyle, parce que sur le terrain il cartonnait aussi offensivement. Et d'ailleurs il passera la barre des 30 points de moyenne 3 fois au cours de sa carrière.
Ce qui est énorme. Hein. Ils ne sont pas beaucoup à pouvoir, à l'époque de Jordan, dépasser les 30 points de moyenne.
Hein. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer, hein, parce que je suis trop jeune. Mais du coup, on peut dire que...
ça y est, c'est parti.
Pardon, les gars. Ouais. Ça ressemble un peu à Blake Griffin dans le...
Alors, c'est pas un uniforme. Effectivement, il y a des similitudes, parce que les dunks de Griffin sont souvent des dunks où il va au contact. Et Wilkins, ses dunks en match, c'est là où c'est impressionnant, c'est qu'en fait, il rentre dans l'art. Ils sont 3 ou 4 parfois sous l'arceau et ils leur exposent à la tronche. Il y a des claquettes de fou, mais ils claquent des moulins à vent, des windmills ou des pumps sur la tronche des gars qui est en face. Et c'est quand même, c'est pas super courant dans l'histoire du dunk. Peut-être Sean Kemp aussi, qu'on pourrait, au niveau de la violence des dunks, mais Wilkins, il y en a quelques-uns qui sont bien méchants quand même.
Ouais, il est un peu plus dans le style de Anthony Edwards. Pour le résumé de nos jours, là, c'est plus Anthony Edwards.
Ouais, Anthony Edwards qui est bien contact.
Sean Kemp ou Griffin. Ouais.
Et je disais un truc très intéressant qui disait qu'il avait cette propension à absorber les contacts, en fait, quand il montait avec Médie. Verticalité.
Ouais, il n'explose pas sur les chocs, quoi.
Ouais, voilà, quoi.
Comme Médie,
il n'explose pas. Sauf que Médie, il ne saute pas.
Non, j'ai pas besoin.
Voilà.
Je m'en fous, je gagne.
Il arrête le mec à l'avant. Ok, donc tu nous as dit, tu as parlé de plusieurs saisons à plus de 30 points de moyenne. Alors, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est moyenne en carrière NBA, je crois que c'est 26 points, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 26 points de moyenne.
Non, 24 points.
24 points.
Enfin, un peu plus de 24 points.
Mais il a joué longtemps, c'est le meilleur marqueur de l'histoire des Hawks.
Ouais, il a fait combien de saisons au moins?
Je crois qu'il a fait 12 saisons.
12 saisons aux Hawks.
12 saisons. Qui, qui n'ont jamais, alors on en parlait aussi avant l'émission, mais Dominique Wilkins, il n'a jamais été très bien entouré, hein. Mehdi, tu le disais, il y avait quand même, on a retenu quelques coéquipiers, on parlait de Spudway, mais il n'a pas fait une carrière transcendante, mais Kevin Willis, ça vous parle ? Une espèce d'ailier fort pivot, très très musclé, qui était bon. Puis après, il y a eu une deuxième partie de sa carrière, au moment où les Hawks deviennent compétitifs, il va se passer un truc assez fou d'ailleurs, que va nous dire, mais il était avec Mookie Blaylock et quelques joueurs qui étaient ils avaient Stacy Ogman, des joueurs avec un fort impact défensif et qui étaient capables vraiment de lui apporter quelque chose, parce que quand tu jouais contre les Hawks en fait, du temps de Bird, Jordan, etc., bah, tu pouvais laisser marquer 30 points à Dominique Wilkins. Les autres joueurs n'étaient pas forcément au diapason et du coup t'assurais grosso modo la victoire. Donc justement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux éléments qui sont marquants. Il y a un premier qui est sa blessure au tendon d'Achille.
Ouais, sa blessure.
C'est en 91, si je ne dis pas de bêtises, où il se rompt le tendon d'Achille. Et là, beaucoup de gens pensent que sa carrière est terminée parce que c'est une blessure, surtout à l'époque, qui est difficile et qui l'est toujours.
À revenir.
Ouais, alors surtout pour un mec qui avait un jeu aussi spectaculaire et physique que Wilkins. Il va mettre plus d'un an pour se remettre, mais il va revenir. Il va cartonner dès son retour, ce qui est assez fou.
Ouais, par contre, la blessure, ça va lui coûter la Dream Team en 92.
Ouais, donc il ne fait pas partie. Donc, il y a débat, on se posait la question, on n'a pas trouvé la réponse. Si vous l'avez, envoyez-nous sur le Facebook de Graphite. Mais on se demandait s'il n'avait pas été pris dans la Dream Team à cause de sa blessure, mais je ne suis pas certain. Ou est-ce que c'est parce qu'il y avait embouteillage de toute façon de talent et qu'il n'avait pas été sélectionné avant ? Il y a une bonne question. De toute façon, ce n'est pas le seul oublié de la Dream Team. On pourra revenir un jour sur Isaiah Thomas. Et le débat. Donc voilà quoi. Et le deuxième fait, c'est son départ des Hawks.
Ouais, parce qu'il restera fidèle à son équipe 12 ans. Jusqu'à la fin de... Enfin, à peu près la fin de sa carrière. Où il testa,
au crépuscule, on va dire.
Ouais, où il testa les vestiaires des Lakers, des Celtics, des Spurs et des Magic. Mais le seul bémol de sa carrière, c'est que Wilkins n'a jamais gagné de titre, malgré son réel talent aussi bien athlétique qu'offensif.
Alors justement, sa fin de parcours aux Hawks, elle est assez, assez triste, parce qu'on a parlé d'une équipe qui était... ou d'un coaching staff qui n'a jamais su l'entourer correctement. Mais en fait, si on regarde sa dernière saison, ses derniers instants aux Hawks, les Hawks sont premiers. Ils sont super bons. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des dirigeants. Là, ils le transfèrent contre Danny Manning aux Los Angeles Clippers. Danny Manning, qui était un bon joueur, qui a été numéro 1 de draft, si je ne dis pas de bêtises aussi, mais qui n'était pas au niveau de Wilkins, qui n'a jamais été au niveau de Wilkins. Et puis c'est surtout qu'en fait, derrière, les Hawks ne vont rien faire, alors qu'ils étaient sur une bonne dynamique et qu'il y avait un créneau, puisqu'il y a le petit Michael Jordan qui s'était barré pour une retraite temporaire. Donc il y a la seule fenêtre que tu avais pour viser autre chose que les playoffs de la conférence Est, tu te fais envoyer ailleurs. Il a dû l'avoir mauvaise quand même.
Il y a des franchises comme ça qui ont du nez. Hein.
C'est ça.
Il y en a beaucoup.
On pourrait faire une spéciale. C'est train de merdique qui ont changé l'histoire du sport.
Les moves du moment.
Ouais. Mais même lui, au final, il y a un move qui n'a pas été forcément ouf pour lui, si on regarde un petit peu. C'est que quand il a choisi de ne pas aller au Jazz, c'est que quelques années après, tu as Karl Malone qui arrive...
C'est 83, non ?
83, 84, qui arrive quelques années après. S'il était resté au Jazz, il y avait lui et Karl
Malone et Stockton.
Et Stockton, tu te dis peut-être que les mecs, et t'as des interviews où il dit franchement, des fois je me dis que ça aurait pu être vraiment cool quoi, d'avoir cette,
ça, c'est clair,
ce Big Free.
Ah, parce que tu rajoutais Wilkins à Malone et Stockton, il y avait débat pour savoir si Jordan aurait gagné autant de titres. Hein.
Si, il aurait gagné, te casse pas. On
n'ouvre
pas là-dessus.
Okay. On n'ouvre pas le débat.
On termine juste sur Dominique Wilkins en disant qu'en fait, il a aussi une particularité par rapport...
Il a un titre quand même. Hein.
Kevin.
Il a gagné l'Euroleague avec le Palatinaikos.
Ouais.
Et MVP des finales en plus.
Ouais, c'est ça. En fait, il a fait une carrière en Europe. Alors qu'il était encore capable de marquer 20 points de moyenne en NBA.
Il est revenu l'année d'après aux Spurs et il mettait 18 points, je crois, de moyenne.
Ouais,
comme
ouais,
ça.
C'était une super saison. Ouais. Et puis il repart en Italie derrière. Ouais. Donc c'est un joueur qui a quand même marqué. En fait, les supporters des Hawks, en tout cas, te diront que c'est lui le plus grand joueur de tous les temps des Hawks. On attendra la fin de carrière de Trae Young pour trancher cette question. Ouais. Il y a eu Bob Petit aussi qui était
déjà la tranchée.
Grave.
Lui, là, c'est des tracteurs.
Ouais.
Mais voilà, Dominique Wilkins, c'est quand même. Pour un mec qui n'était pas dans la Dream Team, c'était quand même un joueur exceptionnel. Et je vous invite à aller voir ses confrontations, notamment avec Larry Bird, puisqu'il y a eu un match, je crois, où chacun a marqué plus de 45 points dans une confrontation en play-off qui est assez légendaire. Mais il y avait pas mal de. À une époque où la NBA était un peu nasty, c'était des méchants. Et les Celtics, c'était pas les derniers, dédicace à Bruno qui n'est pas là, mais pour mettre des tartes et pour envoyer du pâté, comme on dit. Ok, je vous propose de faire une petite pause musicale, le temps de reprendre notre souffle, et puis on passera à la suite de notre émission. C'est Tupac qui nous emmène en Californie.
Coast. definitely in the house. Frisco, yeah. Frisco. And you know LA up in this. Pasadena, where you at? Yeah, Inglewood. Inglewood always up to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at?
On est de retour sur Money Time, l'émission basket Money Time sur Graphite Compiègne, 94.9, www.graphite.net. L'émission qui mange l'actu basket, qui la digère et qui vous la restitue, on va dire. Ok. On a un invité mystère, surprise, qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour. J'ai un invité mystère. Ah vas-y, dis bonjour.
Tu peux interagir, dis bonjour.
Ouais.
Comme
on peut pas venir de manière discrète.
Ouais.
Bonsoir
à tous. Ah oui,
si tu
mets ton micro,
si le micro, ça peut pas marcher.
Ouais, c'est vrai. Alors, c'est Buffa.
Ah il y a Graphite, c'est Buffa, mon nom masqué, on va dire ça comme ça.
Donc un habitué de Graphite, et en plus un mec qui vient de rentrer dans la secte des loisirs de la Croix-Saint-Ouen.
Effectivement, ouais, et c'est un grand plaisir d'y participer, d'être présent tous les jeudis soirs.
Hein, ah ouais, c'est... D'ailleurs, on n'a pas dit, mais demain... Si vous voulez voir un grand match de basket, il y a deux possibilités. Si vous voulez voir des clowns jouer, il y a l'entraînement à la Croix.
Merci, sympa.
Et si vous voulez voir un vrai match de basket, il y a les loisirs de la Croix qui affrontent la redoutable équipe des vétérans de Clairoy.
Ah oui.
À Clairoy.
Ah, ça donne envie.
Ah d'accord. C'est cette équipe-là, d'accord. Okay.
Ouais,
non, okay. Je comprends mieux. Ouais.
Donc des gens de Graphite.
Effectivement.
Je dirais pas les noms.
On taira les noms pour aujourd'hui.
Ouais, exactement. Mais on va affronter. Alors Rémi pourra pas jouer, mais Lord Byron sera là pour coacher l'équipe de Clairoy, donc ça devrait être un bon moment en perspective. On vous donnera le résultat du match à la prochaine émission s'il n'est pas trop
désarmé.
Ouais, ça va dépendre. ça va être chaud. Bon, en tout cas on est super content de t'accueillir, Buffa, et puis ça nous fait un public supplémentaire. Le studio commence à devenir trop petit pour les émissions.
Ça, c'est la notoriété.
C'est la notoriété. Enfin, pense à mettre des gradins.
Ouais.
Ok, alors, je vous propose un petit jeu. Et comme tout petit jeu qui se respecte, ben, il faut un jingle. Allez, c'est parti. Alors, vous avez reconnu le jingle, mais le jeu qu'on va instituer, je ne sais pas s'il aura une pérennité, parce que c'est pas forcément... C'est pas au niveau des chiffres et des lèvres, mais ce sera tu préfères bip ou bien bip. Bon, je vais vous proposer... je vais vous faire des propositions, et j'attends des réponses de votre part argumentée, les gars. D'accord ? Donc, première question. Vous avez le droit de tous vous exprimer. Hein. Tu préfères filer le shoot de la gagne à Kevin Durant, Damien Lillard, Stephen Curry ou Trae Young? Vas-y, Mathéo, tu commences.
Moi, ce serait Damien Lillard.
Damien Lillard, ok. Vas-y.
Si c'est un 3 points, je le file à Lillard. Si c'est un 2, je le mets à Durant.
Ok, c'est argumenté, c'est bien. Manu?
L'affect dirait Curry, mais la réalité, Lillard.
Ok. Kevin?
Par rapport à ce qu'on a pu déjà voir, je dirais Lillard aussi,
ouais. Ouais, putain, ouais. Lillard est plébiscité.
Sur les fins de match.
Et Buffa ?
Tout à fait comme Mehdi. Voilà. 3 points Lillard, 2 points Durant.
Ok. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'aurais dit Lillard quand même.
Il est tellement clutch.
Ouais, Lillard, le nombre de matchs que j'ai vus où tu sais que c'est lui qui va prendre le shoot en plus. Tu sais que le système, il est pour sa gueule. Et bon, de toute façon, on a notre jingle qui est quand même son shoot sur OKC où il le prend à 10 mètres. À 10 mètres. Où il y a Paul George qui est quand même un des meilleurs défenseurs NBA devant et il le crucifie. Et qu'est-ce qu'on envoie des paniers de Lillard, enfin chaque année. Il vieillit, mais il reste toujours aussi clutch. Donc ce sera Damien Lillard qui aura la balle. Mmh. Mais après, c'est vrai que je comprends l'argument de Kevin Durant. Parce que si c'est un 2 points, un petit mid-range qu'il faut des maisons.
Ah, il est grand, il est long pour défendre dessus.
Ah, c'est dur à contrer. Hein.
Près du panier, c'est.
Et c'est marrant, Curry, non ? Curry et Trae Young non plus. Pourtant, Trae Young, il a mis quelques buzzer beaters comme ça.
Ah non, mais c'est parce que moi, je l'aime pas.
Ah, c'est juste une question
c'est
de.
C'est ça, ouais.
Je suis Mehdi.
Ouais, je lui donne
pas. Vous n'avez pas Trae Young et Stephen Curry ? Mathéo, Stephen Curry, tu fais pas la balle ?
Je suis quand même, mais je trouve qu'en question de Money Time, justement, je mettrais Damien Lillard.
Si c'est juste pour mettre un 3 points, bien sûr que tu le donnes à Curry dans n'importe quelle situation dans tout le match, mais c'est vrai qu'en en fin de carton, tu vois, le Dame Time, tu vois, il n'est pas là pour rien.
Même si
Ice Tray, tout ce que tu veux, c'est vrai que... Mais Damien Lillard, il en a mis un paquet, quoi. C'est fou.
C'est vrai que c'est un réel... En tout cas, quand on parle de clutchitude...
Verbe qui va rentrer dans le dictionnaire d'ailleurs bientôt. Hein.
Ouais. Mais il est comme ça aussi un peu au loisir. Il aime bien mettre les derniers shoots. Hein,
c'est ça, quand ça devient important, on donne le ballon.
L'humidité. Il faut que je fasse un truc sur son humidité. Un dossier spécial sur l'humidité de Média. Ok, on passe à notre deuxième. Vous préférez, les gars, partager un verre de vin avec LeBron?
Oui.
Ça, attends, écoute la suite. Une tasse de café avec Butler, un hamburger avec Zion, ou un strip club avec Harden.
Moi, je vais prendre Zion parce que j'aime bien manger.
Ok, donc toi, tu dis Zion. Ouais. Mathéo, tu dis quoi?
Tu vas dire le strip club.
Si tu dis strip club, tu t'expliques avec ta mère. Hein, pour ça.
Moi, je vais prendre LeBron. Ah non, bah non, c'est verre de vin. Ah non, non, bah du
coup, je sais pas. Soyez au strip club, soyez au verre de vin.
Non, non, bah Buckler, je peux pas non plus.
T'as pas de droit au café, non
Zion
plus.
Zion aussi.
Tu prends un okay, ouais, burger avec Zion. Donc Z, t'as deux burgers avec Zion. Manu, tu prends quoi?
Un petit Château Margaux avec les Browns.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais.
Ah, tu le sens bien.
Ah ouais.
Apaisé sur, dans un domaine en Toscane.
Je sais pas, j'en sais rien, là où il veut bien m'emmener.
D'accord, ok. Buffa?
Ah, je dirais LeBron quand même, pour revisiter un petit peu sa carrière, le tour de faire un petit verre de vin, on prend le temps, ouais. Raconte-moi tout.
Vous aimez les hommes matures, en fait.
Voilà.
C'est pour ça que je suis au loisir à la croix.
Tu sais qu'on aime les hommes matures.
Ok, Kevin. Ah,
c'est dur quand même. Parce que c'est vrai que l'argument de LeBron, le petit verre de vin, tranquille.
Ouais.
Par contre... Enfin, le café avec Butler.
Ah, bien, quand même, parce que... on est d'accord. Il n'y a personne qui va au strip club avec Harden, bande d'hypocrite.
Non. C'est un malade, lui.
Ouais, c'est vrai, on est d'accord.
Après, Butler, moi, ce ne serait pas que pour le basket, ce serait aussi sur sa vie. Quoi.
Ouais.
Ça, discuter avec lui, ça doit être un gars.
Non, parce qu'il y a cette anecdote de Butler dans la bulle qui avait ramené son café, vous connaissez ce truc, et qui vendait sa tasse de café à 25 balles auprès des autres joueurs. Il en a vendu. Hein. Et en fait, c'est vrai que c'est un personnage atypique. Alors, pour revenir sur Zion, quand même, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gars, c'est que, à mon avis, tu sers deux burgers à côté de Zion, ils bouffent les deux. Ils vous en laissent pas un.
Ah, vous êtes méchant. Cette année, il joue quand même.
Ah, il joue bien. Et d'ailleurs, ce sera.
Et puis là, il va falloir qu'on ait.
Il a perdu du poids, ouais.
Il a plus de 10 kilos.
Ouais, il fait 150 kilos.
Cette nuit, il a sauté.
cette nuit. Non, mais il saute de ouf. C'est juste que la question, c'est de savoir s'il va pouvoir faire une carrière. Tu prends un frigo, tu le lances en l'air 10 fois.
Déjà, il fait une année. On va pas lui demander non plus.
Il n'est pas sur une année complète.
Il
n'a
pas raté beaucoup de matchs.
Non, pas beaucoup. Mais attends, l'année n'est pas finie. C'est à ce moment-là, en plus, que les blessures, elles arrivent. D'ailleurs, ça commence à s'enchaîner pas mal. Hein. On sent que...
Il risque de prendre les Clippers au premier tour. Ça va être sympa.
Ouais, ça va être sympa. De toute façon, dans la chanson de Tupac qui passait, il dit Wild Wild West, ça va être le cas, là, parce qu'à mon avis, là, dès le premier tour à l'Ouest,
t'es
pas armé. Ah ouais, ça va saigner. Et le champion de l'Ouest, on en a déjà parlé, mais autant l'année dernière, Denver a roulé sur tout le monde, autant cette année, il va falloir sortir les muscles.
Hein. De l'autre côté, où Boston, ils vont rouler sur tout le monde.
Non, c'est pas, je pense pas. On en reparlera. Ok, on continue avec la troisième question. Il y en a quatre, hein, d'accord. Vous préférez bénéficier d'un conseil pour améliorer votre jeu? Alors, bien que je suis convaincu que vous n'avez pas besoin de conseil, les gars, vous êtes déjà à un niveau Dieu, le jeudi exceptionnel. Préférez d'un conseil pour vous améliorer, vous bonifier de la part de Bird, de Magic, de Jordan ou de Duncan? Attention.
Vas-y.
Allez, on va commencer dans l'autre sens. Kevin, tu commences. Il n'y a pas besoin de conseil.
Magic, peut-être.
Ah, c'est vrai, Magic.
Ouais, Magic pour la vision du jeu, le. Je sais pas.
Ok.
Rien que t'apprendre à faire une passe déjà, ça serait.
J'étais en train de me dire pour.
Ouais, c'est paradoxal parce qu'il a du mal à lâcher le ballon. Qui...
Pour perdre moins de ballons sur les passes. Magic.
Ok, Magic. Ok, Buffa, à toi.
Je sais pas si je réponds, parce que ça répond fort en face. Ça hein. Tire direct. Non, Magic, sans hésiter, franchement.
Ah ouais.
Ah ouais, franchement, le style de jeu de Magic, bah, c'est marqué dessus. Hein. Moi, il me fait rêver. Hein.
Ok.
Ah ouais, franchement, ton gamin, c'est incroyable. Ouais. Même si. Jordan est au-dessus, ouais, même les autres, hein, je dis pas, mais ouais, Magic, moi, c'est ce mec-là me fait rêver vraiment, dans son style de jeu, de les passes et tout. Ouais,
le feeling avec le basket.
Franchement. Ouais.
Qui est-ce qui a ce feeling-là aujourd'hui avec le basket? Peut-être Jokic et Doncic? Non? Comment dire, cette intuition du basket, tu sais, de savoir d'anticiper.
Le QI basket.
Le QI basket. Je sais pas, bon, pour être un débat, Manu, toi, tu.
Jordan.
Toi, tu prends un conseil de Jordan.
Ah ouais.
Ok.
Ouais, pour. Je sais pas, pareil, comme pour tout à l'heure pour les LeBron, j'ai envie qu'il me raconte tout, quoi. Il doit avoir tellement de choses à raconter et de tellement de trucs à donner comme conseil que.
Je suis pas sûr qu'il soit beaucoup dans le partage, Jordan, par contre.
Non, mais moi, je serais son pote, en fait. Je suis son gars.
D'accord.
Et on s'est acté, c'est comme ça, je suis son gars. Et il me dit, voilà, tiens, j'ai 2-3 tips, là, tu vas voir, c'est bon.
Tiens, manger ça à la maison.
Voilà. C'est acté, c'est pas genre, je suis un inconnu.
D'accord, ok.
Ouais, mais tu vas bosser dur, hein. Ce qui est dur, ah ouais, coaching est dur.
Ouais, ouais, parce que.
Il doit pas rigoler, ouais.
Ouais, c'est clair, à mon avis, hein. Ouais. Ok, Mehdi, t'as dit quoi, toi? T'as rien dit encore?
Moi, Jordan, ce serait la facilité, mais non, je vais prendre Duncan, moi.
Ah ouais, parce que sauf que Duncan, il est muet.
Ouais, mais il sait tout faire. Ouais. Et en plus, là qu'il est intégré les Spurs, c'est bien.
Ouais.
Donc c'est bien pour notre français, c'est bien.
Ok.
Donc il va tout lui apprendre.
Alors après, Duncan, ouais, effectivement, intelligence de basket aussi. Après, c'est efficacité. Hein. Duncan, c'était sans fioriture, c'était...
Non, non, il était pas spectaculaire, mais il savait tout faire.
On est d'accord. Et toi, Mathéo, tu prends quoi?
Bah moi, ce serait le GOAT, hein, Jordan.
Ah putain, vous êtes tous sur Jordan, hein, c'est fou. Hein.
Bah oui, mais c'est le meilleur.
Et moi, je vais vous choquer. Moi, je prends Bird à tous les coups.
Ah bon? Bah, ouais. On va prendre un mec de Miami.
Pour non. Améliorer ton
choix. Ah non, je l'ai pas mis dans la liste.
Pour l'art de la
c'est pour ton
choix. Non, mais Bird, c'est un prédateur, quoi. C'est le mec en termes de. C'est pareil, d'intelligence basket. Fallait le voir. Hein. Parce que peut-être que vous êtes trop jeune pour la voir. Non, mais c'est vrai. Bird, c'était un tueur, mais. Et attention, excellent passeur, excellent défenseur, excellent shooter. Enfin, il était capable de tout faire, Bird, sur un terrain. C'est pas pour rien, de toute façon, qu'ils se sont partagés les titres avec Magic. Hein, mais bon, il y aurait débat. Mais je pense que Bird...
Il avait pas l'air sympa non plus.
Ouais, mais j'aime bien, moi, des gens un peu comme ça. Ah, un peu enfoirés sur les bords.
Ok.
Mais il t'aime bien.
Si je vous invite, c'est pas pour rien. Ok, on termine par une question facile. Enfin, humiliante, mais facile. Tu préfères te faire dunker dessus par Anthony Edwards, Jalen Johnson, Jaylen Brown ou Ja Morant? Mathéo, tu préfères te faire dunker dessus par qui?
Ja Morant.
Ok.
Parce que Anthony Edwards, ce serait trop violent.
Ah, on est d'accord.
J'ai pas envie de me faire brutaliser. Donc je vais dire Ja Morant.
C'est un bon argument. Ok. Mehdi?
Edwards.
Toi, tu préfères. Toi, t'es mal contact.
Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien.
Contact de la peau.
Il joue comme j'aime bien.
Ok. Donc, toi, c'est Anthony Edwards.
Ouais, je prends le Ja aussi.
Ouais.
Ouais.
Ouais, parce que le Ja, tu sais qu'il va te passer par-dessus, il va pas te faire mal.
Ouais, c'est sûr que c'est moins physique que Edwards, mais du coup, tu verrais un truc un peu plus impressionnant, je pense.
Ok. C'est vrai qu'ils sont vraiment spectaculaires, ces dunkers.
Ils sortiraient un gun en même temps.
Est-ce qu'il dunkera comme ça encore à son retour?
Je pense. Je pense que ça fait partie de ces joueurs qui vont rester. Puis il va revenir avec la rage l'année prochaine.
Bah, c'est bien, il y a du boulot de toute façon.
Ouais, il y a un peu de taf
à Memphis. Là.
Il peut revenir avec un cerveau aussi, ce serait bien.
Ouais, c'est plus dur. Hein. Ok, toi?
Marcus Smart, c'est celui qui est le moins spectaculaire des quatre, hein, on est d'accord.
Ouais, mais Marcus Smart, j'ai pas mis.
Ouais, c'est Jalen Brown.
Ah, c'est Jalen Brown. Ouais. Oh, pardon.
Le jour où tu vois Smart.
Jalen Brown, alors on est d'accord, c'est celui qui a foiré son concours de dunk. D'accord.
Qui? Jalen Brown.
Jalen Brown.
Jalen Brown, ouais.
D'accord, bah, je prends lui parce qu'il y a des chances qu'il rate.
C'est une belle réponse.
Ouais, c'est un bon argument. Ouais.
Non, je dirais John Morant aussi. Un peu comme tu disais, Anthony, hein, je me trompe pas.
Non, c'est
Mathéo.
Mathéo, bah, voilà.
Il y a deux, trois lettres.
Voilà, non, direct. Hein, voilà. Désolé, Mathéo. Pas deux fois. Mais ouais. Comme toi, les mêmes arguments. Ouais.
Ouais, moi, c'est pareil. Moi, je suis John Morant aussi. Au moins, le mec, tu sais qu'il te passe par-dessus, tu peux rien faire. Ouais. Ouais, c'est. Edwards, je trouve trop méchant dans sa façon de dunker. Ça fait mal, quoi. Tu sens que le mec. De toute façon, cette nuit, là, il y a deux nuits, là, le dunk qu'il a mis, là, on en discutait avant l'émission.
Il
là,
fait le doigt, quoi.
Le 30 sous de John Collins, il a pris tellement cher. Hein, c'est... Ok. Bon, bah voilà, on a fini notre petit jeu. Il nous reste le buzzer beater, évidemment, pour terminer notre émission. Allez, c'est parti. Ok, ok. Alors, on a notre traditionnel buzzer beater, c'est-à-dire la question de débat du jour. Cette semaine, je vous propose ces attaques qui font gagner des matchs, ces défenses qui font gagner des titres. Les Lakers de l'époque du Showtime, on pense évidemment, les Suns de Steve Nash, les Kings des années 2000, les Warriors des Splash Brothers. Les écoles de la côte ouest ont longtemps promu un basket débridé, basé sur le principe de marquer plus que l'adversaire pour vaincre. Au contraire, le basket East Coast est historiquement plus rugueux. Les Pistons des Bad Boys ou de 2003, les Bulls de Jordan, les Knicks de Patrick Ewing et plus récemment le Heat de Miami. La philosophie est centrée sur une autre approche consistant à encaisser moins de points que l'adversaire. C'est une nuance qu'il faut signaler. Donc l'adage célèbre attribué à Jordan, mais également à Sir Alex Ferguson, puisque la phrase exacte de Jordan, c'est « l'attaque fait lever des foules ». La défense fait gagner des titres. Et Alex Ferguson, c'est l'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres. Donc spécial dédicace à Jérôme qui nous écoute, qui est fan de Manchester United. Donc sur les vertus de la défense, est-ce que cet adage se vérifie toujours? Et alors que la NBA cherche à mettre fin aux journées portes ouvertes qui plombent le All-Star Game et désormais la saison régulière, l'identité Est-Ouest se vérifie-t-elle encore? Les playoffs vont-ils convoquer l'ancien esprit d'une rivalité et d'une pensée de jeu historique, tandis que Rémi fait son entrée dans le studio. Salut Rémi.
Ça va quoi?
Ouais, ça va. Bienvenue. Pour Can You Dig It après?
C'est ça que j'ai. Ouais. C'est ça. Et j'espère que tu as parlé de la main gauche de Kyrie Irving.
Eh ouais, ouais, alors il faut qu'on en parle. On a parlé avant l'émission, effectivement, la main gauche de Kyrie Irving.
On y arrive.
Ouais, on en parlera sur la fin, parce qu'il nous restera deux minutes pour évoquer les derniers matchs des derniers jours qui ont été marquants. Ok, alors justement, sur cette question des attaques, les gars, quel est votre ressenti de cette saison? C'est vrai qu'on assiste à des boucheries régulières, un peu trop fréquentes, même à mon goût.
Ouais.
Vous regrettez ce temps où, pour gagner un match, il fallait marquer 80 points ou ça vous fait plaisir de voir des orgies tous les soirs?
Il y a un juste milieu, quand même.
On est d'accord qu'on a atteint quand même là...
Ouais, là, on a atteint un peu le n'importe quoi. Ouais. Mais si on reprend les années 2000, 2010, ou quand on prend les Spurs, par exemple, la grande époque des Spurs, ça jouait quand même très bien en attaque, mais ça jouait aussi très bien en défense.
Ouais.
Donc c'est plutôt ça qu'il faut chercher, plutôt que soit tout l'un ou tout l'autre, il y a un juste milieu à trouver, je pense.
Et alors, est-ce que ce juste milieu, on peut le trouver en play-off, au moment où le pace y ralentit, hein, le rythme des possessions? Alors là, on sait aussi que les scores fleuves qu'on a en NBA actuellement, ils sont aussi dus au fait qu'en fait les gars shootent beaucoup plus vite, ils utilisent beaucoup le shoot à 3 points. Et donc les possessions, elles durent beaucoup moins longtemps. On va pas au terme des 24 secondes, sauf si tu t'appelles Eric Spoelstra et que tu dis à tes gars, on joue jusqu'à la 23e, les gars. Mais c'est vrai que ça donne une explication. Mais la NBA se penche actuellement sur des moyens de, on va dire, de revenir à des scores qui sont décents, puisque dans certaines équipes, je sais pas si vous avez vu, il y a des équipes qui alignent 4 mecs à 20 points de moyenne actuellement.
Ouais, l'équipe qui est symbole de tout ça à mes yeux, c'est les Pacers. Je veux dire, à un moment, Indiana, ils mettent 140 points par match.
Ouais.
C'est spectaculaire, c'est quand même sympa à regarder.
Ouais, c'est très joli.
Ouais. Alors, ils attaquent aussi bien qu'ils défendent mal. Quoi. Après, ils en mettent 140, mais ils en prennent 130. Et...
Ça marchait en début de saison, j'ai l'impression.
Ouais, ça marchait en début de saison.
Ça marche moins bien.
Ouais.
Ouais. Ça marche.
De toute façon, plus ça va arriver là, sur la fin de la saison régulière, et moins ça marchera. Et... J'ai un peu de mal à y croire, moi, Indiana en play-off, même à passer le premier tour, ça va être très, très, très compliqué.
Alors, on a évoqué certaines équipes mythiques, Mais par exemple, les Lakers, bah, Buffa, toi, du coup, tu peux nous en parler un petit peu. Les Lakers du Showtime de Magic Johnson, puisque tu étais fan de Magic quand tu étais gamin. Mais cette équipe de Showtime. D'ailleurs, il va falloir qu'on fasse une émission spéciale. Vous avez vu, il y a une série qui s'appelle Winning Time, qui reprend l'histoire des Lakers, justement, sur Apple, je crois, TV. Et t'as toute une. Bah, il raconte, en fait, justement, la passation de pouvoir entre Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson. J'ai regardé les premiers épisodes dans l'avion, mais c'était en anglais, donc j'ai pas tout compris. Mais ça a l'air très bien. Ouais, ça va.
J'ai vu des belles images.
Non, j'ai compris certaines choses quand même. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il faudra que je regarde l'intégralité pour me faire un avis. Mais toi, les Lakers du Showtime, on pense souvent que c'est attaque débridée. Mais en réalité, c'est...
Ouais, mais ça se voulait ça. Mais en fait, non. On est quand même dans une période du basket où il fallait des équipes solides, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais à la limite... Par rapport au petit débat qui est en cours, je vais faire très court, il y a je vais prendre deux éléments. Le premier, c'est qu'on a moins, je trouve qu'on a moins de références de bons défenseurs actuellement de la NBA. Voilà, je vais prendre deux noms rapidement. Alors, j'ai plus son nom, mais le fameux Birdman, un mec qui avait une crête, là, il jouait au Nuggets, je crois.
C'était.
Voilà, qui était connu, Anderson, voilà, qui était connu pour son côté défensif. Ouais, et clairement, on va prendre Rodman, qui est la référence ultime.
Ah oui.
Là, je trouve qu'on n'a pas de. On trouve pas de joueur actuellement qui arrive à avoir ce sort de. Peut-être que je me trompe, de mon analyse. Voilà.
Qui verrouille un mec, quoi.
C'est ça. Ah, et deuxième chose, c'est quand je vois le match des All-Stars. Moi, ça me fout en l'air.
Ah ouais, moi,
je vois des matchs où les gars font n'importe quoi. On remonte. Allez, 10-15 ans et plus en arrière, où c'est des vrais matchs.
Ouais.
Il y avait du spectacle, il y avait le côté Showtime.
Mais garder l'aspect compétition. Voilà. Ouais, alors qu'on n'a plus maintenant.
Voilà, je trouve que c'est des références pour moi qui confirment un peu le fait qu'on est trop dans l'offensive. Et peut-être qu'il faut revoir un peu la copie, mais peut-être que les playoffs, en effet, vont un petit peu recorriger.
Général, les scores
se réduisent à ce moment-là, ils vont au bout des possessions, mais.
Après, il y a des belles références quand même quand tu prends les hits, période Heatles.
Ouais.
Ça a joué fort en attaque, mais ça défendait aussi. Enfin,
de toute façon,
sur le titre, ils ont le meilleur rating attaque-défense.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais. Donc...
Mais après, de toute façon, c'est toujours un débat qui est un petit peu biaisé. Mais si tu prends les Warriors des Space Brothers qui ont régné sur NBA, ils avaient une défense de taré.
En fait, ils avaient des phases défensives.
Ah ouais.
Tu vois, leur fameux troisième quart-temps, c'est pas qu'ils shootaient beaucoup, ils avaient une adresse de fou, mais ils faisaient des séquences défensives sur ces troisième quart-temps qui permettaient de réduire le scoring de l'adversaire. C'est ça qui était fou. Ouais. Donc on peut cumuler aussi on peut scorer beaucoup. Et avoir des phases défensives, parce que c'était pas une équipe tout le temps défensive.
Et chose que n'ont pas réussi à faire les Suns de Steve Nash, pour le coup, ou les Kings de Weber à l'époque, Stojakovic, tout ça. C'est-à-dire que c'est des équipes qui étaient ultra fortes offensivement, mais qui n'étaient pas capables de verrouiller à un moment.
Inversement, tu as les hits des dernières années, où défensivement ça cartonne, ils vont en finale, et par contre, comme offensivement, ils n'arrivent pas à passer le cap. Ouais.
Oui, c'est vrai. Fois, le hit, ils sont victimes de ça, puisque c'est une très très bonne défense, mais... Il leur manque ce joueur de toute façon en attaque pour les mener.
Après, tu as des franchises qui ont des identités aussi.
Oui.
Pourquoi ils n'y arrivent plus, c'est qu'ils ont perdu leur identité.
Ouais,
ils auraient dû garder cette époque où c'était impossible de rentrer dans la raquette.
Ah ouais.
Quelle belle époque.
Il y avait quand même des sacrés morceaux.
Oh,
la vache.
Ça ne m'étonne pas qu'il ait un maillot des Pistons une fois sur deux à l'entraînement, effectivement. Ouais. Ok. Tiens. Pour faire la petite transition, puisqu'il nous reste 5 minutes avant de rendre l'antenne, allez, on écoute LeBron.
The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision?
In this fall, man, it's very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat.
Miami Heat. That was the conclusion you woke up with this morning.
That was the conclusion I woke up with this morning.
Ok les gars, alors on a super bien timé l'émission puisqu'il nous reste 5 minutes pour évoquer les matchs récents et notamment celui de la nuit dernière qui opposait Denver à Minnesota. Alors Denver au sommet de la conférence Ouest, tranquillement, sans trop forcer. Minnesota, dont je me suis bien foutu de la gueule pendant une grosse partie de la saison en disant qu'ils allaient finir par baisser, et ben visiblement, je me trompe, puisqu'ils sont quatrième, ça descend un peu, mais ils sont pas très loin, troisième. Ouais. Bon, alors là, ils sont un peu dépecés, nos Timberwolves, parce que
l'intérieur est moins grand, d'un coup.
Il n'y avait pas Gobert, il n'y avait pas Karl-Anthony Towns, et il n'y avait pas Nasrid. Donc, leurs trois intérieurs.
Ah ouais.
Ouais, puis en face, il y avait un joueur moyen, quoi. Enfin...
Ouais, il y avait un petit gars qui s'appelle Nikola Jokic. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une des actions, c'est rigolo, où il prend la position dans la raquette et le mec qui défend sur lui, c'est Kyle Anderson.
C'est lui qui jouait pivot, ouais.
Et il le prend, et moi, j'avais mis l'image.
Il l'emmène où il veut.
Il le pousse, il le dégage, il finit à 10 mètres du panier, et puis il met son petit panier tranquille. Ça n'a pas été sifflé, mais... Donc la consigne a été simple. De toute façon, Denver, ils ont dit... On va filer la balle à Jokic à l'intérieur. Et puis derrière. Donc il a fait que deux passes, Jokic, cette nuit.
Ouais,
c'est assez rare pour être. Ouais. Mais du coup, il a marqué 36 points, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Donc avec un, score, avec un pourcentage d'adresse qui est celui de, au lancer franc de Stephen Curry. Donc,
ouais, c'est voilà. Absolument phénoménal ouais. Ce qu'il fait quand même.
Mais je tiens à dire, et faire mon mea culpa, j'en profite, je vais me fouetter en rentrant d'ailleurs. Minnesota, par sa résidence, m'a vraiment impressionné parce que. Déplumés comme ils étaient, ils finissent quand même à 3 points, je crois. Ils perdent le match de 3 points au final, mais ça joue à très.
Ils ont pour égaliser. Hein.
Ouais, carrément. Anthony Edwards fait un match monumental. Derrière, McDaniels aussi s'est comporté en très bon lieutenant. Et donc, ça me fait dire que peut-être que je me suis trompé et qu'au mois d'avril, Minnesota passera un tour de play-off avant de rendre les armes.
Ce serait bien.
Ouais. Pour le coup, eux, ils ont une bonne défense. Ils ont une bonne défense. Ils ont un joueur qui est capable de cartonner quand il est en forme. Ouais. Edward, il peut faire des matchs monstrueux.
Ouais, c'est vrai qu'Edward, là, il a franchi un panier. Alors, par contre, je ne trouve pas. Il y avait un débat aujourd'hui, il paraît qu'il fait penser à Michael Jordan dans son jeu. Moi, je ne trouve pas du tout que. Non.
Non, c'est le temps qui reste en l'air, en fait. Il est souvent comparé à lui sur le, ouais, sur le fait
dans le style,
énormément de temps.
Jordan est beaucoup plus gracieux, quand même, non, non
mais tu veux comparer à Jordan
Rémi, Jordan, au niveau de la grâce. C'est quand même difficile de faire mieux, non?
Pour moi, il n'y a pas mieux que Jordan, après. Mais bon, moi, je suis un mec à l'ancienne, donc bon.
Non, mais c'est vrai. Parce que là, il le compare, parce que visiblement, physiquement, il lui ressemble. C'est pareil, il faut m'expliquer. Où.
Ouais, un peu au visage.
La même taille.
Ouais, il faut la même taille.
Je sais pas.
Ouais, d'accord.
Pointure aussi.
Moi, la voûte plantaire, elle lui ressemble vachement, la mienne. Parce que là, on est parti sur ça. Donc oui, bon, alors, il y avait ce match. Donc finalement, Denver s'impose, mais difficilement,
ouais.
Alors qu'ils étaient au complet. Donc ça laisse augurer peut-être que Minnesota, il ne faudrait peut-être pas les prendre à rigolade au premier tour.
Ouais, enfin, Denver, pendant le match, ils ont 18 points d'avance à un moment.
Ils
arrêtent de jouer.
Ils ont peut-être relâché un peu
la pression. Ils ont complètement arrêté de jouer. Ouais.
Mais est-ce que si on leur rajoute... alors, parce qu'il est possible que Karl Anthony Towns revienne. Ça va être chaud, à mon avis.
Possible.
Mais cette équipe au complet, finalement, est-ce qu'elle peut faire un truc en play-off?
Moi, je pense
pas. On peut passer un tour.
Tu penses pas, non, Mathéo?
Passer un tour.
Passer un tour, hein. Ouais. Après, ça va trop saigner.
Après, ils vont retrouver Phoenix... Dallas,
après, ils vont tomber sur des grosses équipes.
Ils vont tomber sur des grosses équipes.
De toute façon, il n'y aura pas de petites confrontations. On est d'accord à l'Ouest. Il n'y a personne. Les équipes qui sont en play-in pour l'instant, c'est les Lakers et les Warriors.
Ouais, t'es
deuxième, t'es trois.
Dallas, c'est les Suns.
Hein
les puis quatre équipes en play-in, c'est les Suns, Dallas.
Donc déjà, t'es sûr que sorti de ces quatre-là, ce sera un gros que tu vas te taper. Ouais. Et personne n'a envie d'affronter les Warriors. Hein. Je pense pas, en tout cas. Hein.
Je sais pas.
Les Lakers, pareil. Ah, tu peux sur un match.
Sur un match,
les sur un match, tu peux pleurer. Hein,
le Brown, il soit en mission.
Ouais, c'est ça. Je veux y aller en play-off, je veux y aller.
Ouais.
Ok, alors je fais je reviens juste aussi pour terminer l'émission sur Kyrie Irving qui nous a mis un panier improbable à la dernière seconde dimanche soir.
Main gauche.
Alors, main gauche, un flotteur en dehors de la raquette. Avec une grosse défense en plus, pourtant. Qui défend sur lui? C'est
un petit joueur, Jokic.
C'est Jokic.
Ouais. Et il le crucifiait à la dernière seconde, ce match était fou.
Au niveau de la rapidité d'exécution entre Jokic et
on
est sur deux.
On est sur un gap, on va dire. Et ça faisait suite au match où le Miami s'est imposé sur un 3 points d'Adebayo en tête de raquette, quand même, qui était assez incroyable aussi. Bon, contre Détroit, ça a moins de charme, mais.
Faut qu'il ramène tout à Miami.
Toujours.
Ça.
Non, mais c'était parce que c'est deux matchs coup sur coup qui se terminent avec un buzzer beater.
Donc voilà. Soirée.
J'étais complètement objectif. Ok, alors, avant de rendre l'antenne, de transmettre l'antenne, oui, je bafouille un peu ce soir, à Rémi, vous avez une dédicace à faire, les gars, rapidement?
Ouais, on va féliciter les joueuses de la Croix qui ouais, monte d'accord. officiellement en National 3 okay, l'année bravo, prochaine. Ouais. Félicitations à elle et au super. Coach Jérémy Misa. Bravo.
Bravo. Hein.
Y a pas les, j'ai vu les résultats ce week-end. Les U20, ils sont en tête aussi.
Ouais, c'est pas mal.
Super, non, on a une belle saison à la Croix. Écoute, cool. Dédicace aux copains qui vont jouer demain soir ouais. À l'entraînement.
Ouais, ouais. Voilà. Hey, tu seras là, Rémi, du coup ?
Ouais, non.
T'es blessé ?
Non, même pas.
J'ai pas les mêmes infos. Moi, j'ai Mike qui me dit que t'es blessé.
Ouais,
et toi...
ouais aussi, c'est ça. Ouais, je suis blessé aussi.
C'est une blessure diplomatique.
Non, j'ai un soupçon de pneumothorax, donc c'est assez sérieux.
D'accord. Ok. Bon, ben, on est désolé, mais en tout cas, voilà, il y aura un match. On reviendra dans les détails sur cette belle confrontation. Claire-Roi à la Croix. Ça finit par Roi.
Vous pouvez venir nombreux.
Ouais, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, ça va être beau.
Ok. Bon, bah écoutez, on vous fait un béco à tout le monde. On était super contents. Money Time, c'est terminé. On vous donne rendez-vous, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le 3 avril. Voilà. Mais surveillez. Ciao, tout le monde.
Salut.
Salut.
Salut.